Parmi les amis sûrs que Jésus comptait près de Jérusalem, il y avait une famille composée de trois personnes, le frère Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. Le Nazaréen avait eu rarement l'occasion de passer à Béthanie lors des semaines précédentes. Aussi, ne fut-il pas peu étonné de voir arriver un cavalier qui lui dit
« Dépêche-toi si tu veux revoir vivant ton ami Lazare. La dernière fois que je suis passé à Béthanie, il était à deux doigts de la mort. »
Jésus se rendit donc en hâte dans la ville de ses amis. À peine son arrivée fut-elle signalée, qu'il vit venir à sa rencontre un groupe de femmes, en grand voile de deuil, à la tête desquelles se trouvaient Marthe et Marie.
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je tiens en moi cette certitude que tu peux obtenir de Dieu tout ce que tu lui demanderas. »
« Ton frère ressuscitera. »
« Oui, maître, je le sais. Il ressuscitera au dernier jour. »
« Je suis moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne connaîtra jamais la mort sans fin. »
« Oh oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir au milieu de nous. »
« Où l'avez-vous enterré ?»«
Tout près de notre jardin, dans un caveau. »
Jésus, accompagné de tout le village, descendit le sentier qui conduisait au champ des morts. Quand il aperçut le tombeau, tous les souvenirs qui le liaient à Lazare lui remontèrent à la mémoire et au cœur. Et il se mit à pleurer.
« Sortez la pierre qui ferme le sépulcre. »«
Oh non, Seigneur, ce sera atroce. Cela fait 3 jours qu'il est là. Il va sentir mauvais. » »«
Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu ?»«
Ouvrez le tombeau !»
Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours. Mais aujourd'hui, il faut que je puisse montrer que c'est vraiment toi qui m'as envoyé.
Lazare ! Sors !
Alors, lentement, le visage encore entouré du suaire, les mains et les pieds liés de bandelettes, le mort s'avança vers la foule, partagé entre l'effroi et l'enthousiasme.
Déliez-le et laissez-le aller.
Sur la terre de Palestine, depuis quelques semaines, la moisson a blanchi. Dans chaque village, autour de l'aire avanée, hommes et femmes s'activent pour préparer la récolte et l'engranger dans les greniers. Dans chaque champ, selon la tradition immémoriale, le propriétaire laisse à dessein quelques épis pour les glaneurs qui viendront ainsi prendre leur part des dons de la Providence. Jésus et ses disciples sont passés au milieu de la fête. Dans l'esprit du Nazaréen, tout est motif pour expliquer le royaume de Dieu à travers des histoires simples, pleines d'images de la vie.
Un paysan était sorti pour semer. Au cours des semailles, le grain qu'il portait dans sa besace, il le jeta à pleine main, comme on le fait toujours. Par hasard, une partie du froment tomba sur le chemin, et les oiseaux, tout heureux de l'aubaine, le mangèrent aussitôt. Quelques grains se dispersèrent sur le sol pierreux. Ils germèrent en quelques jours parce que la terre était peu profonde. Mais comme les racines n'avaient pu s'accrocher en profondeur, la sécheresse fit tout disparaître. Autour du champ, il y avait aussi des buissons. Un peu de blé s'infiltra au milieu d'eux, mais il fut très vite étouffé. La plus grande partie du grain, rassurez-vous, tomba dans la bonne terre. Et le rapport fut de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Si je vous raconte cela, c'est pour vous faire comprendre que dans le monde de Dieu, tout se passe sensiblement de la même façon. Le chemin de l'histoire sur lequel le blé est tombé est le cœur d'un homme qui a entendu la parole de Dieu sans la comprendre. Le malin n'a aucun mal à éliminer l'ombre même de la semence. Le terrain rempli de cailloux ressemble à la vie de quelqu'un qui a reçu la parole avec joie. D'abord, c'est l'enthousiasme, puis viennent les soucis et les ennuis. Alors tombent tous les beaux projets et s'installe la médiocrité et la mort de l'esprit. Les épines qui ont reçu la semence, je les comparerais à un être qui a bien entendu la parole. Mais cet homme est un personnage en vue qui s'est laissé séduire par l'argent et les honneurs. La parole de Dieu ne peut grandir dans cette ambiance. Elle s'étiole, s'étouffe. Comment pourrait-elle porter des fruits? Enfin, la bonne terre ensemencée, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Les fruits, je vous l'ai dit, sont nombreux et le rendement est de 160 ou 30 pour un. Amis, pour entrer dans le royaume de mon Père, il faut que vous redeveniez comme ces petits enfants qui trottent autour de nous. À travers leur regard clair, sans hypocrisie, je lis le dessein de Dieu sur les hommes nouveaux qui naîtront de moi. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui savent pardonner, car à eux aussi on pardonnera. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les chercheurs de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume de Dieu leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous fera du mal, lorsqu'on détruira votre réputation à cause de moi. Votre récompense est déjà prête dans le royaume de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd son goût, qui pourra le lui redonner? Il n'est plus bon à rien et on le disperse sur les chemins. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut cacher une ville juchée sur le sommet d'une montagne. Et quand on allume une lampe, il serait stupide de cacher sa flamme sous un tonneau. La lampe, on la place sur un lustre. Et ainsi elle éclaire tout ce qui se trouve dans la maison. Que votre lumière, à vous aussi, amis, brille devant les hommes. Stimulée par le bien que vous ferez, ils rendront gloire à Dieu, mon Père et votre Père. Mes paroles sans doute vous intriguent. Quand vous passez au milieu des gens, vous entendez parler de moi, n'est-ce pas? Pour ces foules, dites-moi. Qui suis-je?
Pour les uns, tu es Élie, Jean le Baptiste revenu sur terre.
Ou l'un des prophètes.
Et pour vous, qui me suivez depuis le début,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Sois dans la joie, Simon Pierre, fils de Jonas, car ta réponse n'a pu venir ni de ta chair ni de ton sang, mais de mon Père qui est aux cieux. Tu as su me reconnaître. À mon tour de te dire qui tu es. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quoi que fasse l'enfer, les tempêtes et le mal, rien ne pourra jamais la détruire.
Jésus avait dit, à plusieurs reprises, qu'il n'était venu supprimer ni la loi, ni les prophètes. Son propos était de purifier un culte qui, peu à peu, s'était encombré de pratiques sans grand rapport avec les projets de Dieu sur Israël. Dans les écoles rabbiniques, qui abondaient autour du temple, on semblait plus enclin à enseigner l'art de couper les cheveux en quatre que celui d'aimer le prochain comme le demandait la Torah. Le temple, dont la superficie s'était étendue avec les siècles, avait suscité autour de lui, et jusque dans ses murs, l'éclosion de négoces qui se présentaient comme des services. En fait, il prenait une place de plus en plus considérable, et les psaumes se trouvaient en permanence ponctués par les beuglements des taureaux, les bêlements des chèvres et le tintement des monnaies. À chaque fois que le Nazaréen se rendait à Jérusalem pour prier, ses disciples le voyaient froncer les sourcils. Un jour, s'armant d'un fouet de corde, il provoqua une belle confusion en renversant les étals des changeurs, en criant qu'ils avaient transformé la maison de Dieu en une boutique de commerçants. L'incident avait fait jaser. On avait menacé Jésus et, pendant quelques semaines, il avait préféré rester sur la côte, prêchant dans les synagogues locales. Aujourd'hui, à nouveau, il est dans le temple. Personne n'ose l'empêcher de parler, car des dizaines d'hommes, simples mais résolus, l'entourent et l'écoutent. Derrière les colonnes, anciens du peuple, pharisiens et docteurs de la loi ne perdent pas un mot de son discours.
Quand vous faites des choses bonnes, ne vous mettez pas en évidence devant vos semblables, car dans ce cas, vous ne recevriez aucune récompense de votre Père qui est dans les cieux. Si donc tu veux aider ton frère qui est dans le besoin, ne sonne pas de la trompette, comme les hypocrites le font dans les synagogues et les lieux publics, afin qu'on leur fasse des courbettes de dévotion. Toi, quand tu rends service, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche.